Voilà. C'est parti. Alors, Bokertov, Erevtov, Lekoulam, Erevtov, Lekoulam. Alors, effectivement, deuxième épisode de Gog Magog. Et alors, je tiens à rassurer toutes les personnes qui n'étaient pas présentes la semaine dernière. D'abord, ils peuvent retrouver évidemment le cours. Et deuxièmement, comme on savait qu'il y avait des gens qui n'allaient pas être là la semaine dernière, eh bien, le cours de la semaine dernière, je ne vais pas dire qu'il est indépendant du cours d'aujourd'hui, mais la semaine dernière, volontairement, on n'est pas rentré dans le texte lui-même de la névoie de Yeheskel. Et donc, comme ça, on a parlé la semaine dernière que de manière très générale de quoi il s'agissait et quel était l'objectif de la guerre de Gog ou Magog. On avait parlé de la différence qu'il pouvait y avoir entre le livre d'un côté de Yeheskel, où il y avait ici la volonté de Veit Gadilti, Veit Kadishti, on y reviendra évidemment dans le texte, et dans le livre de Zecharia, où là-bas il était question plus de l'unité du Créateur. Donc il y avait ces deux dimensions, on a essayé d'expliquer quels allaient être les enjeux de cette guerre. Et aujourd'hui, eh bien, au travers du texte Mamash, eh bien, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette Milchemet Gog ou Magog. Alors, je préviens tout de suite, est-ce que c'est forcément, comme l'a présenté Johan, est-ce que c'est forcément quelque chose de triste, de négatif? Eh bien, on va voir. On va voir parce que ce n'est pas aussi évident que cela, que c'est quelque chose de forcément terrible. Je sais qu'on a l'habitude d'entendre, quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, on a toujours l'habitude d'entendre l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, c'est pas juif. Ben, je vous rappelle que le texte d'Apocalypse ne se trouve pas dans le Tanakh, il se trouve dans les Évangiles. Donc, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Gog ou Magog. Alors, je vous invite à rentrer directement dans le texte. Pour ceux qui voudraient suivre le texte, je vous invite à vous munir d'un Tanakh. Vous munir d'un Tanakh, c'est très important. Oui, je sais que j'aurais dû vous faire la feuille, mais enfin, j'avoue que j'y ai pas vraiment pensé et que quand j'y ai pensé, je me suis dit, vu que tout le support il est au même endroit, eh bien, ils peuvent prendre le Tanakh dans le livre de Yeheskel au chapitre 38, Perek Lamed Chet, Sefer Yeheskel. Voilà, je vous laisse une minute pour vous munir de la bête, et comme ça on peut rentrer dans le vif du sujet. Yalla. Très bien, alors c'est parti les amis. Gog ou Magog, deuxième partie. Alors, quand on prend le texte de Yeheskel, eh bien on va tout de suite se confronter à une grande question. Tout d'abord, et ce, avant de rentrer dans le texte, je pose une question simple. Est-ce que Milchemet Gog ou Magog est inéluctable? C'est-à-dire, est-ce que ça va forcément avoir lieu? Eh ben, voilà une question qu'elle est bonne. Pourquoi est-ce que je pose la question? A priori, il n'y a pas de débat. C'est une névoa de Reskalanavi. Donc, comment est-ce que je peux imaginer, Bichlal, qu'il n'y ait pas Milchemet Gog ou Magog? Mais on se rappelle de la Guémara dans le traité de Makot, ou alors dans la Halakha, dans le Rambam, qui nous dit que une névoa positive doit se réaliser. Perek Lamed Chet. Donc, on sait que lorsqu'il y a une névoa positive, eh bien, elle est obligée de se réaliser. Une névoa négative n'est pas obligée de se réaliser, puisqu'elle dépend de la Teshuvah, elle dépend de notre rapport avec Akadosh Baruch Hu. Donc, s'il s'agit ici d'une guerre terrible, eh bien, peut-être que, en fait, elle n'est pas obligée de se réaliser. Si on se comporte comme il faut, eh bien, il n'y aura peut-être pas Milchemet Gog ou Magog. D'un autre côté, le résultat de Gog ou Magog, tel qu'on l'a vu la semaine dernière, est extrêmement positif, puisqu'il amènera eh ben, à la glorification du nom de Dieu dans le monde. Donc, c'est oui une névoa positive. Donc, est-ce que Gog ou Magog doit se réaliser ou pas? Eh bien, c'est une question à laquelle on va essayer ensemble de répondre. Alors voilà, c'est parti. Pereklam et Tret 38, verset Aleph, verset 1. Vayi devar Hashem elai lemor, ben Adam, sim panecha el Gog, eretz amagog, nesi rosh mesher vetuval, innabe alav. Yefemeod. On nous parle donc ici d'un bonhomme qui s'appelle Gog. C'est un monsieur Gog. C'est un monsieur, d'ailleurs, il semblerait qu'il correspondrait pas mal à ce roi du Caucase, d'Asie mineure, qui s'appelait Gigès, qui est rapporté dans les écrits de Hérodote. Donc, est-ce qu'il s'agit de ce roi-là? Oui, le mot Gog, le nom Gog, était un nom qui était utilisé par certaines personnalités de la région à l'époque plus ou moins de Yeheskel. Mais ici, il est évident qu'on ne parle pas de lui. Parce qu'ici, on fait référence à un névoi d'avenir. Donc, il y aura un bonhomme qui s'appelle Gog. Odapam. Il semble que Gog fait allusion à USA et Magog à URSS. Alors, les amis, justement, c'est très bien que tu ouvres avec cette question-là. Quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, les fantasmes les plus extraordinaires sont toujours de mise. Et moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on ne parle pas fantasmes, on parle Tanakh, on parle verset, on parle halakha. Et donc, venez, on va essayer de mettre de côté tout ce qui pourrait nous faire kiffer. D'abord, il faut essayer de comprendre ce que dit le texte. Quand on parle de Gog, non, ça ne parle pas des États-Unis. Peut-être qu'on peut faire correspondre ça aujourd'hui aux États-Unis. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne ce que le verset veut dire au moment où on le lit. D'accord ? Alors, allons-y. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Gog. Et il est le chef d'une nation qui s'appelle Magog. Ve'amarta. Alors, d'abord, Nesi Rosh Mesher Vetuval Ve'inabe Alav. C'est où Mesher Vetuval ? Mesher Vetuval, c'est à peu près l'Azerbaïdjan actuel. Ok, donc on est dans cette région-là du monde. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui fait du jardinage. Voilà. Yofi. Donc, Ve'amarta. Ko amar Adonai Elohim, inneni elecha Gog, nesi rosh mesher vetuval, veshovavticha, venatati chachim bilchayecha, veotzeti otecha, veet kol chelecha susim uparashim, levushem michlol, kulam keal rav, tzina umagen, tofse charavot kulam, paras, kush, put, itam, כולם מגן וכובה, גומר וכל אגפיה, בית תוגרמה ירקתי צפון, ואת כל אגפיו עמים רבים איתך. Alors, effectivement, là, les choses sont assez claires. Il s'agit d'une grande coalition qui vient faire la guerre. Cette coalition, eh bien, géographiquement, on peut la situer, puisque, je vous ai dit, si on ne sait pas exactement où est Magog, eh bien, elle est le dirigeant d'une coalition qui s'étend et qui comprend la Perse, qui comprend l'Azerbaïdjan, qui comprend l'Arménie, puisque Gomer, c'est l'Arménie, plus ou moins, qui va en fait s'étendre jusqu'à la Turquie, jusqu'à le sud de la Russie. Donc, c'est une grande région de personnes qui vont suivre ce bonhomme qui s'appelle Magog. On est à l'époque de Yeheskel HaNavi. À l'époque de Yeheskel HaNavi, eh bien, la coalition que je suis en train de vous présenter, c'est pratiquement le monde connu, le monde puissant connu. Donc, en d'autres termes, la présentation des forces ici veut nous dire que cette milchama touche le monde entier. Le monde entier à tel point que dans Sher Eshumot, les Chachamim vont nous expliquer que Begematria, Gog ou Magog, ça fait 70. Et évidemment, c'est très symbolique. Ça veut dire qu'on parle de, au niveau midrashique, des 70 nations, c'est-à-dire véritablement d'un conflit mondial. Mais ça a l'air donc, il s'agit ici d'un sujet qui va pas toucher un coin de l'humanité, mais qui va avoir une répercussion sur le monde entier. Icon! Et voilà. Icon! Ve'achen lecha! Ata ve'chol ke'alecha! Anik'alim alecha va'iti lahem lemishmar! Miyamim rabim! Tifked be'acharit ashanim tavo! Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure est clairement énoncé. Il s'agit d'une névoa d'avenir. Donc même s'il y a à l'époque de Yechezkel des personnages qui pourraient répondre au nom de Gog, c'est pas d'eux dont on parle. Ça y est. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a même des personnages antérieurs à Yechezkel, donc à cette prophétie, qui auraient pu remplir le rôle de Gog ou Magog. Puisque la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, va nous expliquer que lorsqu'il y a eu la guerre entre Chizkiyahou et Sanhérib, donc près de 150 ans avant Yechezkel, eh bien, les Malachim ont voulu faire de Chizkiyahou Melech HaMashiach et de Sanhérib Gog ou Magog. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des tentatives de remplir ce rôle de Milchemet Gog ou Magog avant même que Yechezkel arrive. Donc, bien qu'il y ait des gens qui s'appellent Gog ou Magog à l'époque de Yechezkel, là, il s'agit d'une névoie atidite. Ok ? Alors, voyons quel est le problème. De quelle guerre s'agit-il ? Qui se bat contre qui ? On a l'habitude de dire, voilà, mi neged mi. Dans cette histoire-là, vous voyez, je vois que ma caméra a décidé d'être flou aujourd'hui. Nounou. On verra bien. J'espère que le point... Attends, peut-être que si je vais... Voilà, voilà. Voilà. Nous, Bezrat Hashem. En tout cas, donc, quelle est cette milchama et pourquoi était-elle ? Donc, on continue dans le texte. Iné. C'est parti. Donc on continue dans le texte, on est toujours dans Yechezkel, chapitre 38, et cette fois on est arrivé verset Chet. Miyamim rabim tifkedem v'acharit ashanim tavo. El eretz moshavet micherev. El eretz meshovevet micherev. Qu'est-ce que c'est ? C'est où cette guerre ? Où ça se passe ? Eh bien ça se passe el eretz Meshovevet Micherev. C'est-à-dire, Eretz, à laquelle on revient, une terre à laquelle on revient, après qu'il y ait eu la guerre. Mekubetzet Miyamim Rabim. Cette terre dans laquelle on revient après la guerre, eh bien, c'est une terre dans laquelle on revient après être revenu de beaucoup de peuples. Al Hare Israël, Asher Ayu Lechorba, Tamid, Vehi, Me'amim, Utsea. Et donc voilà, le suspense, au cas où vous n'auriez pas compris, quelle est cette terre dont il est question, à laquelle on revient après une guerre, et on revient de plusieurs peuples, eh bien, c'est évidemment la terre d'Israël, qui était une ruine, depuis toujours. C'est quoi depuis toujours ? Pas depuis toujours. Et Yechezkel, il le sait bien. Mais puisqu'il prend une névoie atidite, eh bien, il sait que pendant trop longtemps, cette terre sera une ruine. Et donc, il nous dit, on revient à cette terre qui a été détruite pendant si longtemps. Et là, on y est revenu. Asher Rovatamid, Vei, Me'amim, Utsea. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus les peuples qui l'occupaient, n'y sont plus. On est en train de parler tout simplement du retour d'Israël sur sa terre, si vous n'aviez pas compris. Ve'yashevou la betar kulam. Et ce peuple qui revient sur cette terre, donc le peuple d'Israël, ce qui revient sur la terre d'Israël, Yoshev la betar kulam. C'est-à-dire que ça y est, on est bien. Donc c'est dans ce contexte-là que va apparaître Milchemet Gog Magog. C'est-à-dire après le retour de l'exil. C'est la raison pour laquelle, bien que certains avis de penser comme cela, Non, la Shoah n'était pas Milchemet Gog ou Magog. Pourquoi la Shoah n'est pas Milchemet Gog ou Magog? Eh bien, parce que durant la Shoah, on n'est pas encore revenu de l'exil. On est en plein en train, mais on n'y est pas encore. C'est-à-dire que Milchemet Gog ou Magog ne peut commencer qu'après, eh bien, l'indépendance de l'État d'Israël. D'accord? Donc, nous, la Shoah, ce n'est pas Milchemet Gog ou Magog. Qu'est-ce que c'est la Shoah dans la littérature rabbinique? C'est Chevlé Mashiach. OK? Ne pas confondre. Chevlé Mashiach, ce sont les douleurs de l'enfantement messianique, donc quelque chose qui arrive avant la Géoula. Mais Chevlé Gog Magog, c'est Bema'alach à Géoula, c'est durant la Géoula. Et donc, Ve'yachevu la Bet Akulam. Ve'aliti kashoat tavo ke'anan lechatzot eretz. Tiye. Ata vechol agapecha ve'amim rabim otach. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous attaquer. Et là, on se pose la question. Ko amar Hashem Elohim, va'aya ba'yom ahu ya'alu devrim al levavecha, ve'chashavta machshavat ra'a, machshavat ra'a, c'est ra'a, ve'amarta ele al eretz perazot avo, ha'shoketim yoshevel ha'betach, kulam yoshvim be'ein chuma ubariach, ou de la taïm en laem. Ah, ils se croient à l'abri, tous ces peuples-là, tout ce peuple qui est revenu sur cette terre. Eh bien, je vais m'en occuper. L'ishlol shalal velavos baz la'ashiv yadecha al charuvot noshavet. C'est-à-dire que je vais ramener les choravot. C'est-à-dire là où les gens étaient revenus et avaient reconstruit, eh bien, Milchemet Gog Magog va s'y réattaquer. Vel am me'usaf migoyim ose mikne vekinyan yosheve al tabour haaretz. Et ce peuple-là qui est revenu de si loin, eh bien, je vais m'en occuper betabour haaretz. Efoze tabour haaretz. On a compris que cette guerre, elle allait se passer en Israël. Mais où? C'est où que ça se passe? Eh bien, on donne ici une indication qui s'appelle Tabour Haaretz. Efoze Tabour Haaretz, eh bien, ça dépend. Ça dépend, est-ce qu'on prend la terre d'Israël comme étant simplement Eretz Kenan ou comme étant Eretz Israël? Car s'il s'agit de Eretz Israël, Tabour Haaretz est à côté de Shrem. S'il s'agit de Eretz Kenan, Tabour Haaretz est à côté de Yericho. Tabour étant le nombril, le centre de la terre. Donc, si on prend Eretz Kenan, le centre de la terre, c'est Eretz Israël, le centre de la terre, c'est à côté de Shrem. Et il y a jusqu'à aujourd'hui un village arabe qui s'appelle Ras Tabour. Et si on prend Eretz Kenan, alors, eh bien, ça sera à côté de Yericho. On verra plus tard qu'en fait, ça sera à Yericho et pas à Shrem. Mais ça, je vous spoil la suite. Et donc, on continue en disant Vel am meusaf migoyim asa mikne vekinanam yoshevet al tabour haaretz sheva udedan vesochare tarshish vekol kifareha yomru lach halishlol shalal hataba halavoz baz hakalta kealecha leset kesef vezahav lakachat mikne vekinyan shalal shalal gadol ולשתות שלל גדול? לכן, אם נבא בן אדם ואמרת לגוג, כה אמר אדוני אלוהים, הלא ביום ההוא, בשבט עמי ישראל לבטח תדע, ובאת ממקומך מירכתי צפון, אתה ועמים רבים איתך, רוכבי סוסים כולם כעל גדול וכל רב, ועליתי על עמי ישראל כענן לכסות הארץ, באחרית הימים תהיה ואביאותיך, אל ארצי למען דעת גויים אותי, בקדשי בך לעיניהם גוג.
איתן,
oui?
avant que tu traduis, est-ce que tu peux baisser un peu ta caméra? On te voit moite-moite.
Tout à fait.
Voilà, merci bien.
C'est mieux comme ça?
Super.
Yofi. Donc, que nous dit ici Akadosh Baruch Hu, Bedivrei HaNaviim? Il nous dit, voilà, vous allez tous venir ici, donc, et vous allez nous faire la guerre. Maintenant, d'où elle vient cette guerre? On a dit, d'un peu partout, il rassemble, il a sa coalition de base, et quand il descend vers Israël, eh bien, il prend avec lui également les peuples qui sont à côté de nous. Et qu'est-ce qu'il vient faire? L'Ishlol Shalal, la Voz, la Gachatzav, il vient piller eh bien, notre pays. Sauf que le Navi nous dit, non, c'est pas pour ça que t'es venu. C'est pas pour ça que t'es venu. Alors oui, entre parenthèses, tu pilles. Mais c'est pas ça que t'es venu faire en vrai. Non, 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 t'es venu faire autre chose. Eh bien, moi, je te dis, nous dit Akadosh Baruch Hu, moi, je te dis, pourquoi est-ce que t'es venu? Tu le sais pas, mais en fait, c'est pour me rencontrer. Milchemet Gog ou Magog a pour rôle, eh bien, de dévoiler Akadosh Baruch Hu aux yeux du monde. On le verra encore, de manière encore plus claire dans quelques versets. Donc finalement, eh bien, lorsque Israël est revenu sur sa terre, eh bien, de nouveau, les Goïm viennent nous attaquer. Là, là, c'est caché. Mais c'est faire à Zohar, à la parachat Bereshit Nunchet, eh bien, on nous dit au nom de Rabbi Yitzhak que lorsqu'arrivera Milchemet Gog ou Magog, eh bien, il y a 70 sarim, donc 70 représentants du monde, qui viendront ensemble et qui voudront faire la Milchama à Yerushalayim. Et là, il faut bien qu'on comprenne. La Milchama, elle est à Yerushalayim. Milchemet Gog ou Magog se passe à Jéricho, Jéricho, mais en fait, c'est une Milchama al Yerushalayim. Et on va devoir essayer de comprendre pourquoi, quelle est cette fameuse Milchama al Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on cherche, tant les Goïm que nous, dans cette Milchemet Gog ou Magog? Rabbi Moshe Cordovero, un Ramak, un des grands, grands élèves du Harizal, les grands maîtres de la Kabbalah du XVIe siècle, eh bien, nous dit le Ramak que lorsque tous les Goïm à Elou viendront, ces 70 représentants, viendront à côté d'Israël pour nous faire la guerre, viendront en Israël pour nous faire la guerre, eh bien, on nous dit à ce moment-là, « Che yaasu atzat shalom benem veitapechou le Israël hachmid mipne sheikimu lehem malchut veteivatei et tzara le Yaakov. » Alors, c'est absolument incroyable d'entendre ces paroles dans la bouche du Ramak. Il y a de cela 400 ans. Le Ramak nous dit que ce sont les mêmes peuples qui se sont jadis réunis pour donner une malchoute à Israël qui maintenant se retourneront contre eux, contre nous, et qui seront en paix pour nous faire la guerre. C'est-à-dire, si on n'est pas en train de dévoiler tout simplement notre quotidien, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que on nous dit clairement, les pays qui hier étaient ceux qui vous ont permis de créer une malroute, qui ont voté pour vous, ben maintenant se retournent et disent qu'il faut vous faire la guerre. Ou alors, qui disent qu'ils sont du côté du Hamas plutôt que du côté d'Israël. Tazma korepo. Pourquoi on a besoin de cette guerre-là? À quoi ça sert? Eh bien, Rabotai, les mandats goyim oti. Toute cette histoire a pour but, eh bien, que le monde soit en connexion avec Dieu. Il est temps que les goïms également connaissent Dieu. Alors, on va voir comment est-ce que cette guerre va leur faire prendre conscience. Mais le but du jeu, c'est que cette guerre amène Kiddush Hashem va au Lam Kulo. Alors, la question, évidemment, qu'on se pose, c'est, mais maître, on est obligé que ça passe par une guerre terrible. On est obligé d'amener le Kiddush Hashem par une guerre. Mais c'est l'opachout, cette histoire. On ne peut pas amener le Kiddush Hashem par autre chose que par une guerre. Iné. On continue le texte. Ko amar Hashem Elohim. Ata hu asher dibarti bayamim kedumim. Beyad avadai nevi Israel. הנביאים בימים ההם שנים להביא אותך עליהם. Là, ici, le prophète Jéréskel nous dit, « Eh, c'est pas la première fois que je vous parle de Gog ou Magog. Il y a eu d'autres Nevi'im qui ont parlé de cela. » Ah bon? Quel est le Navi qui a parlé avant Jéréskel de Gog ou Magog? La semaine dernière, je vous ai expliqué qu'il y avait déjà, enfin, qu'il y avait aussi marqué dans le livre de Zechariah, « Milchemet Gog ou Magog. » Mais Zechariah, Navi, c'est après Yéhézkel. Donc Yéhézkel ne peut pas dire, c'est marqué dans les prophètes anciens, et il parle de Zechariah. Donc de qui parle-t-il? Eh bien, Pachout. Il parle de Moshe Rabbeinu. Pachout. Moshe Rabbeinu, nous sommes dans le Sefer Dvarim, et dans le Sefer Dvarim, Moshe nous a parlé de Gog ou Magog. Ah bon? Moshe nous a parlé de Gog ou Magog? Efo! Eh bien, dans le livre de Dvarim, au chapitre Lamed Dalet, chapitre 34, verset Aleph Ad Gimel, on nous dit, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu va permettre à Moshe de monter à l'Rosh Adiva et de voir toute la terre d'Israël. On est à la fin du livre de Dvarim. Et à ce moment-là, il y a marqué comme ça, Vayal Moshe me'arvot Moav el Har Nevo, Rosh Apizga, Asher Alpenei Yericho. ויראו השם את כל הארץ אשר הגל, את הגלעד, את דן ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון ואת הנגב ואת הכיכר בקעת יריחו עיר התמרים עד צוהר. Donc en fait, il nous a fait un panorama de toute la terre d'Israël. Nous disent nos sages dans le Talmud et dans la Mechilta que pourquoi Akadosh Baruch Hu a montré toute la terre d'Israël à Moshe, c'est pas juste une carte postale. Lorsqu'il lui montre chaque endroit, il lui montre également ce qui va se passer dans ces endroits-là. Et donc, on nous dit dans la Mechilta, Ominaïn she'era'u Gog vechol amono, d'où on sait que Moshe, il a vu Gog Magog, eh bien, she'ne'emar bikat yericho, lelamdenu she'atidim Gog vechol amono, la'alot velinpol bebikat yericho. Le grand combat se passera donc dans la vallée de Jéricho, Bebikat Yericho. Dès que ça arrive, vous avez qu'à aller prendre un tzimer à côté de Mitzpé Yericho, et comme ça, vous pourrez être aux premières loges pour voir les combats et voir la victoire du Ham Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Ok, Bezerer Gamour. Et là, on nous dit quoi? Ve'aya bayom ahum, bayom bo gog al admat Israël, neum Hashem Elohim. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ok, on t'a présenté le décor. Qu'est-ce qui se passe finalement lorsque Gog arrive ici? Eh bien, les amis, qu'est-ce qui va se passer finalement? Vaya bayom ao, bayom ba bo Gog sicha l'admat Israël neum Hashem Elohim ta'ale chamati be'api. Ta'ale chamati be'api. Dieu, il va s'énerver. Il va s'énerver, ok, Mama Zéromère, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Iné. Ta'ale chamati be'api. Hop, 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 hop. Attends, je me suis perdu moi-même. Voilà. Ubekinati be'eshavah evrati dibarti imlo bayom ahu. Yé rash gadol al admat Israël. ורעשו מפניי דגי הים, ועוף השמיים, וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על הארץ, על האדמה, סליחה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו הערים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. קשה. וקראתי עליו לכל ערי, חרב, נאום השם אלוהים, חרב איש באחיו תהיה. זה לא פשוט. ונשפטתי אותו בדבר ובדם, בגשם שוטף ובאבני על גביש, אש וגופרית, אמתיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. Ça va être une guerre compliquée dans le sens où, eh ben, en Israël, du moins, tout le monde va la ressentir. Seulement au final, eh ben, c'est terminé. Kadosh Baruch Hu va exploser son ennemi. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra arriver à la conclusion de cette guerre qui nous dit « Veit gadilti, veit kadishti, leine, venodati, zira, leine, amim, rabim, veyad'u, ki ani, Hashem. Leine, goyim, rabim, zira. Veyad'u, ki ani, Hashem. » Vous avez remarqué, comme on a dit la semaine dernière, que ce verset est la base du kadish. Yit gadal, veit kadash, shemei, rabba. Donc ce verset-là vient nous expliquer quelle est la matara, quel est l'objectif de Milchemet Gog Magog, c'est qu'à la fin de l'histoire, tous ces goyim connaissent Akadosh Baruch Hu. Tard, il a fait meur. Et la vérité, c'est que cette, comme on l'a dit la semaine dernière, cette tfila qu'on a, que le monde entier connaisse Dieu, on le dit tous les jours, deux fois par jour. Tous les jours, deux fois par jour, on répète Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Et je vous rappelle l'explication de Rashi, qui nous dit, Shema Israël, écoute Israël, Hashem, Shehu Achshav Eloheinu, Velo Elohe Agoyim, Atid Liot Hashem Echad Lekulam. C'est, écoute Israël, Dieu qui pour l'instant est notre Dieu, mais pas le Dieu des Goyim, parce qu'eux, ils sont idolâtres, viendra un jour où il sera Hashem Echad Lekulam. Ok? Donc, c'est-à-dire que lorsque on dit le Shema deux fois par jour, Be'ahava, eh bien, en fait, on espère le résultat de Milchemet Gog u'Magog. Voilà ce qu'on espère. Bon, alors, ok, mais c'est l'ergamour. Zélo kazé pashut. Zélo kazé pashut. À tel point que cette notion de Vaya Bayomahu Yahashem Echad ou Shomo Echad, on le retrouve dans le livre de Tsefania, qui nous dit. Et dans Tsefania, qui a et fort elamim safa berura likro kulam beshem Hashem ou le avdo shechem echad. Et donc, comme on a vu la semaine dernière dans Zecharia, qui nous dit bayom ahu yeh Hashem echad ou shemo echad. Taz, on a compris l'idée, on a compris l'idéal de cette guerre. Mais maintenant, il va falloir se poser la question. J'ai compris l'idéal de cette guerre, mais pourquoi est-ce que Yecheskel me le dit à moi? A priori, ce qui est important, c'est que Gog soit au courant de tout ça. Ce qui est important, c'est que Gog ne rate pas l'occasion de pouvoir dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que moi j'ai à apprendre? Eh bien, continue, et Yecheskel Hanavi va nous dire ce suivant. Et alors que je vais vous demander, on peut terminer, est-ce qu'on termine? Avancez directement au chapitre Lamed Tet. Au chapitre Lamed Tet, toujours dans Yechezkel HaNavi, évidemment. Ata ve'ata ben Adam innabe al Gog ve'amarta ko amar Hashem Elohim ineni elecha Gog nesi rosh meshech ve'tuval ve'shovavetikha ve'shashetikha ve'articha mi'arkete tzafon ואביותיך אל הרי ישראל, ויקטי קשתך מיד שמאלך, וחצך מיד ימיניך אפיל, על הרי ישראל תיפול אתה וכל אגפיך, ועמים אשר איתך, לאי ציפור כל כנף, וחיית השדה נתתיך לאוכלה, על פני השדה תיפול, כי אני דיברתי נאום השם אלוהים. C'est-à-dire que là, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il est quand même extrêmement critique par rapport au fait que Gog soit venu faire la guerre. Mais ben, c'est caché. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu est si critique par rapport à Gog? S'il l'a envoyé parce qu'il fallait l'envoyer, pourquoi est-ce qu'on est si critique face à lui? Eh bien, la question en fait, elle est double. Comment est-ce possible que les goyim et tellement envie de faire la guerre au peuple juif, alors qu'Am Israël, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est essayer de dévoiler au monde entier à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a quand même une question qu'on doit se poser quand on voit les manifestations actuelles, quand on voit la diffamation d'Israël, ce que tu veux. Je veux dire, Am Israël, il essaye quand même, enfin, on essaie de faire le bien dans le monde, et on fait des choses pas mal. Comment ça se fait qu'avec tout le bien, la lumière, la kdoucha qu'on a apporté dans le monde, eh bien, le monde, il est toujours contre nous. C'est une question qu'on s'est peut-être déjà tous posée. Je me rappelle même... Pardon ?
Ils sont jaloux.
Ils sont jaloux. Est-ce que c'est que ça ? Ben, maître, est-ce que c'est rac une question de jalousie ? Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu... une émission sur France 2 où ils avaient invité Michel Boujna et il devait parler d'un spectacle, je sais pas quoi, et la journaliste elle lui pose une question sur l'affaire de Sarah Halimi et il dit mais c'est quand même incroyable, je suis venu ici pour parler de mon spectacle et au bout de deux minutes je suis ramené à ma condition de juif et on me pose des questions sur l'antisémitisme et il dit mais franchement mais qu'est-ce qu'on vous a fait? C'est-à-dire, on a dû être terrible dans l'histoire humaine pour que vous nous haïssiez autant. Qu'est-ce qu'on a bien fait ? Et je reprends les paroles de l'ambassadeur d'Israël en France, qui dit, parce que la journaliste Sonia Mabrouk, que Dieu entende tout le bien que je pense d'elle, eh bien, elle lui dit, non mais quand même, enfin c'est de votre faute, vous avez expulsé 8 familles du quartier de Sharjara, du quartier de Shimon HaTzadik. Eh bien, il lui a dit, mais vous plaisantez. Alors disons qu'on a expulsé 8 familles. Donc c'est tout à fait normal que parce que tu as expulsé 8 familles, eh bien, il y a 1000 missiles qui sont tirés sur des civils. C'est normal, ça vous paraît normal. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait ? Et donc, Béhémet, c'est une grande question. Comment ça se fait qu'un Israël qui a fait tellement le bien, eh bien, se prend tellement de styrotes dans la tête ? Béhémet, c'est Shéla Gdola. Et à cette question, il va falloir essayer de répondre. Agave, cette question, eh bien, la Gemara dans ma Sechet Brachot, à la page 10, essaye un petit peu de répondre. La Gemara dans le traité de Brachot, page 10, et là, si vous avez votre Tanakh, eh bien, je vous invite à aller d'Avdef au livre de Tehilim, chapitre 2. Et la Gemara nous dit, Erecholiot, qu'on a collé la Milchemet Gog ou Magog dans Tehilim, à Mered de le Mered de Avshalom. Pourquoi est-ce qu'on a collé le Mered de Avshalom, okay, à Milchemet Gog Magog? C'est très bizarre. Pourquoi est-ce que la Gemara pose ça comme question? Eh bien parce que dans le Tehilim numéro 2, eh bien on nous dit Lama Rageshu Goyim Leumim Yargurik. C'est-à-dire, c'est une guerre qui permet l'avènement du Mashiach. Donc, pour Chazal, le deuxième chapitre de Tehilim, eh bien, nous parle de Milchemet Gog Umagog. Et c'est quoi le troisième chapitre, eh bien, de Tehilim? C'est Mizmor le David bevorcho mipnei Avshalom beno. Donc ça nous parle de Mered Avshalom. Pose la question la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on a collé la guerre de Gog ou Magog avec le Mered de Avshalom? Et la Gemara de répondre, je cite, She'im yomar lecha Adam. Si on te dit Klum yesh evet shemored berabo, bah comment tu peux imaginer qu'un serviteur, qu'un élève se révolte contre son maître, auto davar, afata omer lo, klum yesh ben shemored be'aviv, ela hava, achanami, hava. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Elle dit, ah, tu trouves que c'est bizarre qu'il y ait un élève qui se révolte contre son rav? Ah, mais tu trouves pas que c'est plus bizarre encore qu'un enfant, il se révolte contre son père? Eh ben, regarde! Avshalom, il s'est révolté contre David. Donc, si ça a pu avoir lieu, eh bien, les Goyim, qui sont les élèves de Am Israël quant à la connaissance du dévoilement de Dieu, eh bien, se révoltent aussi contre Israël. Puisque la révolte du fils contre le père a été possible, eh bien, la révolte de l'élève face au maître est également possible. Dans son commentaire de la Gemara, dans son commentaire de En Aya, le Rav Kook va expliquer cette Gemara. Il dit le Rav Kook, Trunat milchemet Gog ou Magog, Trunat milchemet Gog ou Magog, kefi amevoar be mizmor la marakshu, donc comme c'est marqué dans le mizmor de Tehilim qu'on vient de lire, hi ki yitoreru amim rabim leitkomem al oran shel Israel vedeotem, sheisod hakol udat Elohim, sheishrishu Israel. Pourquoi est-ce que les goïms s'en prennent à Israël? Quel est leur problème? Contre quoi ils se battent? Eh bien, ils se battent contre ce que Israël a donné au monde, à savoir, justement, ce fameux Dvar Hashem. C'est-à-dire, le but des goïms, dans le révolte contre nous, c'est pas de la jalousie. C'est, vous nous avez donné la Torah. C'est terrible. Parce que nous, on pensait pouvoir faire ce qu'on veut, et maintenant, on est soumis à la Torah. de près ou de loin. Tazma Koré, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, maintenant, il faut se poser une seule question. La itnakdout, le rejet des goyim pour l'âme Israël, eh bien, doit finalement s'exprimer dans la culture mondiale. Puisque si Am Israël a fait un cadeau au monde en lui donnant la Torah, en lui apprenant la révélation, eh bien c'est le monde entier qui ressent que ça lui porte à lui préjudice. Ainsi, le Rav Kook continue dans Enaya et nous dit « Ubeacher le fils seder ha'itpatrut ha'enoshit nireh adavar shekvar kana ra'ayon ha'nisgav shel da'at Hashem el lev kol ha'amim ha'maskirim ואיך תהפוך כחומר הדעת המוסרית הנעלה הזאת עד שתצטרך לזה יד השם גלויה על ידי ישועתן של ישראל? כלומר, והתגדלתי והתקדישתי. C'est bizarre. Parce que, ok, les goyim nous en veulent d'avoir de dévoiler la relation avec Dieu. Mais au final, aujourd'hui, nous dit le Rav Kook, et il parle de ça il y a 100 ans, et ben, la majorité des peuples éclairés, ils sont familiers maintenant avec la notion du dévoilement. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont toujours dérangés tellement par nous? En quoi ça les dérange tellement finalement? Puisque finalement, ok, ils ont bien compris que ça marchait. Eh bien non, nous dit le Rav Kook, Alken nomar lo, ki haruach mashrit atzibur beimke ha'enoshiyut beruach ha'adam. En leshlem nasum lo gvul veseder. לפעמים יוצא הכוח המוסרי מסדרו הרגיל הטבעי ופורץ גבולו עד שעמים רבים נטעים והולכים בנתיבות לא אור. דיו רב קוק, finalement, comment ça se fait? Ben, il suffit qu'il y en ait un qui allume la mèche et c'est très facile que les gens y suivent. Les amis, je ne sais pas comment vous dire à quel point c'est ce que nous vivons. Il y a un endroit qui allume la mèche contre Israël. Et après, tu peux avoir tous les peuples les plus éclairés du monde qui prennent un tramp et disent « Ah, oh, Israël pourri, pourri, pourri !» Donc, on voit bien ici quel est le rationnel. Qu'est-ce qui est en train de se passer? « Milchemet Gog ou Magog, ze milchama alma » Eh bien, tout simplement, « Almi megale kvod shem kocho » à celui qui va être celui qui va dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que c'est God bless America? Est-ce que c'est Allahu Akbar? Ou est-ce que c'est Beshem Hashem Naaseh Venatzliach? C'est toute la question qui est ici mise en place. Et malasot. Alors comment est-ce qu'on réagit à tout ça? Comment est-ce qu'on arrive, eh bien, à ramener un semblant de, bah, j'ai envie de dire, bah, je sais pas comment te dire, de normalité. Et puis, est-ce qu'on va la gagner, finalement, cette guerre de Gog ou Magog? Hein? Qui va être le vainqueur? Alors, d'après ce qu'on a commencé à lire, Veïkadilti, Veïkadishti, c'est nous qui allons gagner. Oui. Oui, mais attention. Oui, mais attention, est-ce que, eh bien, ça va demander des pertes? Comme on l'a dit la semaine dernière, Zecharia Hanavi va également parler de Milchemet Gog ou Magog. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre le livre de Zecharia au chapitre 14. Oui, aujourd'hui, on s'amuse dans le Tanakh. Et ça ne peut pas nous faire de mal d'apprendre à feuilleter la Bible. Et donc, Sefer Zecharia, chapitre 14, c'est là que va apparaître également Milchemet Gog ou Magog sous les traits de Zecharia Hanavi. Ine Yom Baal Hashem. Et je me permets de, avant de continuer tout de suite de lire le texte du Tanakh, quand on parle de Milchemet Gog ou Magog, eh bien, il faut savoir que il ne s'agit pas forcément d'une seule guerre. Nous dit Rabbeinu Arosh que Milchemet Gog ou Magog, c'est lo Milchemet Gog ou Magog, elle a des milchemot Gog ou Magog. Mais plus que cela, et là, je vais vous le dire de manière très très claire, on va le voir, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais sinon la prochaine fois, ce n'est pas très grave. On verra qu'il ne s'agit pas que d'une guerre, mais de plusieurs guerres. Et pour être exact, il s'agit de trois guerres. Il y a shalosh milchemot Gog ou Magog. Trois guerres de Gog ou Magog. Donc, si on a déjà qui stressait avec une milchemot Gog ou Magog, eh bien, je vous rassure, il n'y en a pas qu'une, il y en a trois. Sauf que, maintenant qu'on a dit ça et qu'on se pose la question, peut-être qu'il y a déjà une partie de Gog ou Magog qui s'est réalisée. Peut-être que, si on parle de 3000 remotes Gog ou Magog, eh bien peut-être qu'une partie a déjà eu lieu. Si une partie a déjà eu lieu, alors, bah, c'est peut-être pas si dramatique que ce qu'on a l'habitude de dire. Rav Menachem Mendel Kasher. Rav Menachem Mendel Kasher, un des gdolé olam de la dernière génération, deux générations, est un Rav d'abord qui mérite d'être connu, et qui a surtout légué au monde le livre extraordinaire qui s'appelle Torah Shlema. Torah Shlema, c'est Parot Yoter, c'est l'œuvre de sa vie, et c'est plus ou moins tout ce que tu peux trouver sur la Torah de tout. C'est, comme on dit, c'est encyclopédia talmudite, mais fait par un bonhomme. Bekitsour, il a écrit un autre petit bouquin pour expliquer Milchemet Yom HaKippourim. Pour expliquer la guerre de Kippour. Et le Ta'anato, de son point de vue, Milchemet Yom HaKippourim, Zaya Milchemet Gog ou Magog. Alors, il semblerait qu'il n'ait pas eu raison, parce qu'au final, Milchemet Yom HaKippourim n'a pas eu lieu, ce n'était pas une guerre pour Jérusalem. Alors que d'après ce qu'on a lu dans Yeheskel, c'est une guerre qui tourne autour de Jérusalem. Mais le fait qu'on puisse voir Milchemet Gog ou Magog comme étant Milchemet Yom HaKippourim, qui est une drama terrible, mais qui n'a rien à voir avec tous les fantasmes que les gens disent quand ils parlent de Gog ou Magog, eh bien, peut-être un petit peu nous calmer. Mais dans tous les cas, de se penser qu'il va y avoir trois guerres de Gog ou Magog pour arriver à Kiddush chez moi à Gadol, eh bien, c'est quand même assez stressant et assez, pas joyeux. Sauf que je répète ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Et si ça s'était déjà produit, ou du moins si une partie de Milchemet Gog ou Magog s'était déjà produit, eh bien, peut-être que ça serait beaucoup moins violent que ce qu'il y paraît. Eh bien, les amis, pour savoir si Milchemet Gog ou Magog s'est déjà déroulé, ou du moins en partie, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oh là là, t'as vu ce suspense ?
Edmond attend tous le 3e épisode. Merci beaucoup, Ethan. S'il y a des questions sur ce cours, c'est le moment d'ouvrir vos micros, chers amis.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Moi, j'ai une question. La semaine prochaine, je serai en Tioul dans le Golan. Donc, est-ce qu'on peut décaler l'horaire de mon point de vue le plus tard possible pour que je rentre? Sinon, je serai obligé de vous dire dans 2 semaines. Parce que, à mon avis, à 6 heures, je serai dans le bus.
Ben, on va voir.
Alors, tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant, Bézrat Hachem.
Et quoi, l'heure que tu penses être de retour?
Écoute, plus tu me fais tard, mieux c'est, quoi.
Bon, ben, on va voir avec Avram.
Est-ce qu'il y a des questions, mes amis?
Et à bientôt, Ethan.
Chazak ou Baruch.